Bouddha n'a jamais dit « Écoutez ce que je vous dis, croyez-moi et vous serez sauvés. » Il a toujours dit « Je vous propose ce que j'ai réalisé, mais vérifiez-le, voyez si pour vous ça fait sens dans votre expérience. » Et la transformation se passera. Donc, dans un enseignement, il y a certaines choses qui nous parlent et d'autres pas. Et le temps passe et tout d'un coup, c'est autre chose qui ne nous parlait absolument pas, qui tout d'un coup nous parle. Parce que la pratique est la sagesse ou l'intelligence, le discernement, ça travaille ensemble. Donc, nous n'avons pas besoin tellement de s'inquiéter au niveau didactique, est-ce que je comprends bien, mais plutôt de s'observer soi-même. Qu'est-ce qui résonne, qu'est-ce qui questionne, qu'est-ce qui paraît bizarre. Et ce soir, j'aimerais vous partager une réflexion sur les 5 facultés. Le Bouddha, dans la tradition Theravada, dans les sutras les plus anciens, a beaucoup organisé les choses. Il y a les 2 ailes de l'oiseau, les 3 caractéristiques, les 4 vérités nobles, les 4 fondements de la présence, les 5 obstacles, les 7 facteurs de l'éveil, etc. Donc là, c'est les 5 facultés. Il pourrait y en avoir d'autres, mais juste pour réflexion. Et ces facultés que nous avons tous à l'intérieur se transforment à travers l'exercice, à travers le développement, le fait de cultiver ce chemin en pouvoir. Ça devient des forces intérieures. Et le premier aspect, Sada, c'est la confiance ou la foi. Du moment que vous êtes là, c'est que vous avez confiance dans, ou que quelque chose résonne dans votre lien en même temps à ce qui en vous est déjà sage, complètement, votre Bouddha intérieur, et à un potentiel universel qui résonne. Nous sentons qu'il y a une vérité que nous pouvons approcher et développer. Et la confiance, c'est un lien au mystère ou un lien à l'incertitude et pas du tout une assurance ou une sécurité. C'est cette compréhension que les choses sont impermanentes, que nous ne pouvons rien fixer et que c'est OK. Que c'est bon, que si nous pouvions fixer, il n'y aurait simplement pas de vie, que la vie est impermanente. Nous vivons un monde d'assurance. Maintenant, on change d'assurance qu'à fin novembre, quelle assurance je vais prendre, celle qui coûte moins cher. Fouf, on a complètement oublié qu'une assurance, c'est une question de solidarité et non pas de gain. C'est intéressant comment quelque chose qui, au départ, était réellement dans la fraternité, la solidarité, se transforme en une sorte de complexité ridicule qui prend du temps, qui administrativement devient un molosse. La nature humaine, c'est la nature humaine, c'est ce qu'on appelle dukkha. La confiance, c'est ça n'est pas une confiance aveugle dans une sorte de magie. Elle prend sa racine dans la présence. Et au début, la confiance est vacillante. Il y a beaucoup d'attaques de doute. Sati, la pleine conscience, fonctionne avec la confiance. Quand il y a le doute, c'est merveille. Mais comment c'est? Oh, avant c'était agréable, j'étais en pleine confiance. Et maintenant il y a une attaque de doute. Ah, c'est désagréable. Le mental est sollicité. Il cherche quelque chose qui serait bon à jamais, meilleur. On est beaucoup dans ces notions de bien et de mal avec le doute. Et dans une retraite, c'est très important de rencontrer le doute. Parce que la confiance, elle va s'établir uniquement parce que nous sommes entrés en amitié avec la non-confiance. Sati fonctionne complètement avec Sada, la confiance. Et cette présence ou cette pleine conscience, elle a besoin d'un corps habité pour pouvoir s'ouvrir à des énergies comme le doute. Autrement, nous sommes identifiés au doute. Et j'ai l'impression que je le vois, mais en fait, je ne le vois pas. Je le vois avec un seul désir, c'est qu'il disparaisse. J'ai envie de lui couper la tête. La pleine conscience, elle ne fonctionne pas comme ça. Et il y a cet intérêt pour les choses telles qu'elles sont. Ok, le doute, c'est pas agréable. Ok, je me sens perdue, ça va pas. Mais comment c'est ? Confiance dans les choses telles qu'elles sont et venir voir, non pas avec un quelconque espoir, mais pour rien, parce que c'est les choses maintenant et que c'est la seule chose que j'ai pour pouvoir grandir. On n'a pas tant besoin de se soucier d'avoir manqué la rencontre, parce que tant que nous ne l'avons pas vraiment accueilli, totalement accueilli, ça revient. Ça revient encore et encore, et chaque fois la confiance s'approfondit et la présence se fortifie. C'est le deuxième aspect, Sati, la deuxième faculté que chacun d'entre nous peut employer juste maintenant. Chacun y est, j'espère. Je suis là. Et peu à peu, il y a plus de constance de cette pleine conscience. Il y a plus de présence d'esprit pour y faire appel lorsque nous sommes en difficulté. Et au lieu de se laisser happer par le mental qui cherche une échappatoire dans les conditions, qui cherche un meilleur karma, je ne veux pas ce karma-là, j'en veux un autre, ça lâche. Parce qu'il y a cette confiance dans la pleine conscience qui va dire, au lieu de « je veux autre chose », mais comment c'est ? Et qui va apprécier. Il y a une qualité d'appréciation qui se fait de plus en plus évidente parce que l'instant est reconnu comme étant tellement précieux. Bien sûr, l'instant est reconnu comme étant précieux quand il est merveilleux. Ça, c'est facile. Mais de pouvoir reconnaître que l'instant est précieux quand il est monstrueux, c'est moins facile. Et pourtant, c'est tout aussi vrai. Je vous lis une parole de Sri Aurobindo que longtemps je ne l'ai pas comprise. Je me disais, un peu bizarre. Peut-être ça vous fera bizarre, mais... Moi, je trouve maintenant qu'elle est super. Toute maladie est un pas vers une guérison. Tout mal et toute douleur, une harmonisation avec la nature vers le bien. Toute mort, une ouverture vers l'immortalité. Pourquoi cela est-il ainsi? C'est le secret de Dieu. Que seules les âmes purifiées de l'égoïsme peuvent comprendre. Je ne sais pas si la traduction est bonne, mais c'est sûr que tant que nous faisons trop référence à moi et mon confort et mes besoins, c'est difficile de s'ouvrir à l'ombre quand elle émerge à l'intérieur. La pleine conscience, sati, est liée d'abord au corps, parce que le corps est plus simple que l'esprit. Et nous pouvons bien voir comment ça fonctionne avec l'esprit. Quand il y a un contact douloureux, le corps se tend, le ressenti est agréable ou désagréable. Donc, quand c'est douloureux, il est désagréable. Et les perceptions donnent une couleur à l'expérience qui est lié à notre vécu, à notre passé. Chacun d'entre nous a un monde des perceptions différents. Et un même événement va créer quelque chose de différent chez chacun d'entre nous. Et ces trois aspects du contact, perception, ressenti, perception qui vont à peu près ensemble. Nous n'avons aucun moyen de les éviter. Ça se passe sans cesse. En positif comme en négatif. Et c'est avec la pleine conscience, nous pouvons commencer à voir. Quand la cloche sonne, contact, la cloche sonne. Ah, ressenti agréable. Perception, ouf, je vais pouvoir bouger. Construction, ah ben après, où est-ce que je vais? Qu'est-ce que je vais faire? Et de juste voir ça, ça permet à la conscience d'être active et ça transforme parce que nous ne sommes plus dans ce monde ordinaire du moi, juste cet attachement à moi. Nous sommes dans la claire vision. Ça sert à ça, la pleine conscience. Ça sert à voir quand ça n'est pas trop défiant, trop puissant, comment ça fonctionne, de manière à ce que lorsque nous sommes dans un défi, que l'autre nous agresse, contact, perception, ressenti, ok, je fais quoi ? Je ne suis plus obligée d'aller dans les constructions qui vont mener à une parole et à un acte créateur de mauvais karma. Donc, c'est très utile si nous voulons vivre de manière paisible et être content, être juste simple et content. La confiance, la pleine conscience, qui sont des qualités que chacun a intrinsèquement et que certains développent, qui de faculté deviennent pouvoir. Et puis l'autre aspect, c'est la concentration. Au début d'une retraite, ou lorsque nous pratiquons relativement peu, ou des fois, le Bouddha a dit qu'il y avait ceux qui allaient... Il y avait... C'est un peu... Ouais, je vais le dire. Il a dit qu'il y avait ceux qui allaient, les très bolleux, qui vont vite et sans douleur. Ça, c'est les très bolleux. Les moins bolleux qui vont vite, mais avec beaucoup de douleur. Les déjà pas mal des bolleux qui vont vite, mais... les très déboleux qui vont lentement et avec beaucoup de douleur. Ça, c'est les très déboleux. Et c'est vrai que la concentration, elle n'est pas accessible de la même manière pour tout le monde. Mais ce n'est pas tellement important. Parce que ce que nous visons, ça n'est pas la concentration. La concentration est un outil qui nous permet de nous connecter à notre sagesse, ou de nous ouvrir à la vérité universelle, ce qui est pareil. Donc, la concentration, nous essayons de la développer, et c'est important, parce qu'elle donne une stabilité à la pleine conscience. Elle permet à la pleine conscience d'être plus souvent disponible, et d'avoir une qualité d'équanimité plus grande. Au lieu que nous ayons l'impression que nous sommes là quand ça va bien, mais que nous ne sommes plus là quand ça ne va pas, nous commençons à sentir que ça n'a rien à voir. Je peux être là toujours, il suffit que je m'en souvienne. Et alors, il n'y a plus cette espèce de confusion entre l'expérience et la conscience. Et il peut y avoir une expérience très intense, peut-être très négative ou très merveilleuse, et cette simplicité, je suis là. Nous oublions souvent, lorsque l'expérience est bonne, d'amener cette simplicité, je suis là. Nous sommes comme pris par l'expérience. Je vous lis une parole de Etty Hillesum. J'aime beaucoup cette parole. Dans mes actions et mes sensations quotidiennes se glisse un soupçon d'éternité. Je ne suis pas seule à être fatiguée, malade, triste ou angoissée. Je le suis à l'unisson de millions d'autres à travers les siècles. Tout cela, c'est la vie. La vie est belle, est pleine de sens à travers son absurdité, pour peu que l'on sache y ménager une place pour tout et la porter entièrement dans son unité. un soupçon d'éternité, c'est juste se souvenir, ok, c'est merveilleux et je suis là. Ou bien, ok, c'est monstrueux et je suis là. Et sentez la différence. C'est énorme. Soit nous sommes identifiés, ballottés sur le flot du samsara, ou bien nous prenons refuge dans cette inébranlable paix du cœur, que nous sommes les seuls, nous-mêmes, à pouvoir contacter. Donc la concentration, à chaque fois que je viens dans le corps et que peut-être j'ai mal et que je reste et que je explore tout ça, je ne fais pas ça simplement pour avoir une concentration. Je fais ça pour, avec cette intention de développer la sagesse et l'équanimité et de pouvoir rester en paix et laisser être l'expérience du moment. Souvent, je ne sais pas comment c'est pour vous dans votre pratique, mais l'esprit demande. Il demande à avoir. Et c'est bien d'arrêter de demander. Mais avant ça, c'est tellement important de voir que je demande. Ah, ça demande. J'aimerais avoir. Et tranquillement voir ce désir qui est là et revenir à l'exercice de concentration. Lorsque la concentration se développe, les joies spirituelles émergent. La concentration peut donner de grandes satisfactions du fait qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Cette demande s'arrête totalement. Je n'ai plus besoin de rien. Tout est posé, tranquille, parfait, mais impermanent. Mais ça donne un moment de repos au corps et à l'esprit, et nous nous ressourçons dans la concentration. Quand le Bouddha parle de toutes ces qualités intérieures de jhana, de joie spirituelle, chaque fois il dit, mais la sensation de plaisir ne s'établit pas, il ne s'attacha pas. Tout ça fonctionne ensemble. Quand il y a quelque chose d'extrêmement bon qui émerge, je me souviens, c'est impermanent. Et quand ça change, il n'y a pas de déception ou de demande pour retrouver. Ou peut-être qu'il y a, mais je le vois. Oh, j'aimerais bien que ce soit comme la dernière fois. Puis voilà que c'est pas comme ça. Je fais quoi? Doute. L'autre aspect, c'est l'énergie ou l'effort, plutôt l'énergie. L'énergie vient parce que nous pratiquons. Au début, nous sommes beaucoup assaillis par les obstacles. La somnolence, l'agitation, le ras-le-bol, l'envie d'être ailleurs, que ce soit autrement, Et puis, finalement, le doute. Que faire de toutes ces énergies? Vous faites quoi de tout ça? Ces obstacles sont des obstacles à la concentration. Donc, il n'y a pas de repos et l'énergie ne peut pas se manifester. Et c'est OK. C'est OK. Nous sommes en chemin. Et comme le dit le Bouddha, le chemin est merveilleux au début, merveilleux au milieu et merveilleux à la fin. Et il est merveilleux au début, même quand je lutte beaucoup. Pour être là, pour rester là, parce que si je reviens à mon intention, quelle est mon intention? L'intention est un aspect important. L'intention, c'est d'être, ça n'est pas d'obtenir. Et avec la somnolence, vous pouvez bien observer comment ça vient. Quand c'est là, je ne vois plus rien. Mais quand j'en sors, comment c'était? Ah ouais, j'avais plus rien. Maintenant, je vois un petit peu. Puis hop, je vois de nouveau. Vraiment de bien observer ce phénomène avec compassion et énergie, détermination. L'agitation, pareil. Quand c'est un obstacle, c'est que j'ai vraiment l'impression que si j'avais une autre expérience, enfin j'y serais. C'est le propre des obstacles. Mais quand nous pouvons voir qu'il y a l'agitation et simplement mettre avec ce soupçon d'éternité de la conscience, ok, il y a l'agitation, mais je suis là. Et je suis là. Je peux complètement être là avec cette énergie. Et alors, au lieu d'être toujours entre le ça ou ça, peu à peu, c'est ça et ça. Et c'est à chacun de faire l'expérience de la différence. Si je suis dans ça, ou dans ah, maintenant c'est comme ça, et j'y suis. L'énergie se développe avec la méditation, d'une faculté ça devient pouvoir et ça peut être très puissant. Quelquefois, il n'y a plus besoin de dormir. Il n'y a plus besoin de changer de posture. Il n'y a plus besoin que. Il n'y a plus un besoin d'impermanence. Parce que l'impermanence est quelque chose de douloureux. Nous aimerions une permanence de bonheur. Mais en même temps, regardez, nous avons un besoin total d'impermanence. Si je vous faisais vous asseoir pendant 3 heures, vous diriez quoi? Difficile! Et pourtant, nous avons ce besoin d'impermanence. Et quand l'énergie se développe, ça se pose. Je peux être plutôt que toujours être ceci ou cela. Et puis le dernier aspect, c'est la sagesse. Panya en Pali. Il y a tellement de manières différentes de parler de la sagesse. Ça va avec la compassion, avec l'ouverture du cœur, l'ouverture aux autres. C'est une absence d'égocentrisme. C'est une absence de soin que je dois donner à moi-même. Une sorte de non-moi qui crée une ouverture énergétique qui ne tremble pas, qui est simple. Et ça va complètement avec cette confiance dans les choses telles qu'elles sont, cette force de la concentration qui pose la pleine conscience et qui lui permet d'accueillir tous les maintenant, pas seulement ceux que j'aimerais. Le mental nous met en esclavage. Lorsque je suis à l'étroit, je monte au niveau mental. Mais au fond, l'esclavage ne vient pas de la pensée, il vient du manque de présence. Si je vois que ça monte au mental, il n'y a aucun problème. Tiens, ça monte au mental. Mais je ne vois pas. Et ça fait hop, et j'y suis. Obsession, drame. Et derrière, il y a tout l'émotionnel qui entretient, qui allume et qui entretient l'emprise conceptuelle. Donc la sagesse, on peut parler des quatre vérités nobles, je ne vais pas le faire ce soir, mais elle est complètement liée au maintenant. Ici et maintenant. Et nous pouvons travailler ce retour, on pourrait dire, avec tous les outils qui sont à notre disposition. Nous pouvons employer la bienveillance, l'exercice de metta, très important lorsque nous sommes perdus. Mais que je sois heureuse et en paix. Et nous retrouvons comme un fil rouge de sagesse. Ou la compassion, quand c'est trop douloureux, c'est difficile de se souhaiter du bon. Mais on peut voir que, ah ouais, ben, je souffre. Je suis sensible à ma peine. Et qu'est-ce que c'est différent si je peux déjà dire ça ou si je suis complètement dans l'emprise du drame? Quel outil employer maintenant pour nous connecter à un qui suis-je authentique et sage. Les mots ne peuvent pas exprimer vraiment ce qu'il y a au niveau énergétique. Mais chacun d'entre nous sait bien comment c'est, quand nous pouvons contacter cette qualité de sagesse. Et le silence est très important. Il y a beaucoup de sagesse dans le silence. Le refuge dans le silence. Le refuge dans la présence. Le refuge dans l'impermanence. Et dans la fraternité, combien nous sommes aidés dans un groupe par toutes ces présences qui sont là. Comme dit Ajahn Sumedho, nous ne pouvons pas changer le monde, ni le monde extérieur, ni le monde intérieur. Dans l'instant, il est comme il est, les choses telles qu'elles sont. Mais nous pouvons changer notre regard sur le monde. Qu'est-ce que je fais de ce qui est là? Et c'est tout le travail méditatif. Donc ces cinq aspects de confiance, de sagesse, de concentration, de pleine conscience, d'énergie, ce sont juste des regards ou des directions différentes pour nommer une même qualité de lâcher prise. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en même temps que ça lâche prise, ça ouvre à l'universel. En même temps que je viens dans l'ici et maintenant, des choses telles qu'elles sont en moi, ça ouvre à l'espace et au silence. Alors, je vous propose qu'on prenne un moment pour mettre en place ce soupçon d'éternité dont parle Eti.
Thank you.